Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Preston Sturges, un génie frénétique de la comédie américaine avec Whit Stillman, Marc Cerizuelo et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est le plus injustement méconnu des grands cinéastes américains, du moins en France, car aux États-Unis, il fait l'objet d'un véritable culte, précurseur de Frank Tashlin et de Black Edwards, maître incontesté de la madcap comédie, destructeur de la comédie américaine au sens où il en a été le refondateur en renouvelant ses codes de l'intérieur, satiriste, ne respectant aucune des valeurs les plus sacrées de l'Amérique, chef d'une troupe déjantée de joyeux exaltés et d'attachants corniaux, flambeur invétéré et inventeur de génie, auteur d'une poignée de films sauvagement drôles, énergiques, désordonnés et peu recommandables, Preston Sturges fut l'auteur d'une œuvre météorique d'une douzaine de films seulement, réalisés en très peu de temps dans les années 40, œuvre qui ne cesse d'être redécouverte pour n'être que mieux oubliée ensuite. Il y eut deux rétrospectives à la Cinémathèque française en 1982 et 2007, une première édition de ses œuvres les plus importantes en DVD il y a 10 ans, mais ça n'a pas suffi. La prochaine parution en France chez Wildside, un superbe coffret DVD Blu-ray proposant en version restaurée HD 6 de ses films incontournables, réparera-t-elle enfin l'injustice ? Plan Large apporte sa petite pierre à la postérité du grand Preston Sturges et il n'est pas seul. Le cinéaste Whit Stillman, l'auteur de Metropolitan, Les Derniers Jours du Disco, Damsels in Distress et autres Love and Friendship, un de ses plus fervents idolâtres, est avec nous pour nous faire partager sa passion sturgesienne, ainsi que Marc Cerizuelo, critique, historien, théoricien du cinéma, auteur dès 2002 d'un livre qui contribua à rafraîchir la mémoire défaillante des spectateurs, Preston Sturges ou le génie de l'Amérique. Ils sont accompagnés de la Lady Eve de Plan Large, tout aussi fervente admiratrice de Preston Sturges, Charlotte Garçon, qui en fin d'émission nous évoquera une autre sortie DVD Blu-ray, celle là encore restaurée de la trilogie de la guerre de Roberto Rossellini, trois films, Rome, ville ouverte, Paisa et Allemagne, année zéro, qui se trouvent être les exacts contemporains dans un tout autre genre des dernières années de Sturges à Hollywood.
Good morning, sir.
Same to you.
Well,
I beg your pardon, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning.
Oh,
you shouldn't have black cats in the house. It's bad luck.
Oh, sir, your trousers.
I see you're down early for breakfast this morning, sir.
Bonjour Whit Stillman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes parisien et c'est notre chance. Merci d'être venu nous parler de votre grande passion, Preston Sturges. Nous vous avions déjà reçu à Plan Large. C'était le 25 février dernier. Vous étiez alors l'invité des journées cinématographiques dionysiennes. Vous y aviez programmé une carte blanche. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette carte blanche? Notamment Miracle au village de Preston Sturges. Est-ce que vous vous souvenez quand et comment vous avez découvert son cinéma, Whit Stillman?
Well, I think our public television featured.
Je crois que notre télévision publique passait des films de Preston Sturges, dont Lady Eve. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ces films de Preston Sturges.
Alors je l'ai dit en introduction, Sturges en France, sans arrêt, on le redécouvre, on l'oublie, on doit le redécouvrir sans cesse. Quel est son statut aux États-Unis? Parce que vous n'êtes pas le seul à le vénérer chez les cinéastes. Wes Anderson fait partie des membres de la secte, les frères Coen également. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des voyages de Sullivan. Il a encore une présence importante dans l'imaginaire cinématographique aux États-Unis.
Very much so. I think it's particularly
oui, tout à fait.
The Coen brothers,
surtout les frères Coen qui ont parlé et qui ont cité son travail dans leurs films.
Aussi,
Sturges est très admiré et surtout, en particulier, par des scénaristes qui veulent devenir eux-mêmes cinéastes. C'est Sturges qui a vraiment tracé la route pour que les scénaristes deviennent metteurs en scène.
Alors, on l'a entendu, un premier extrait, ce n'est pas un film de Preston Sturges, mais presque, c'est un film de Mitchell Leisen, Easy Living, dont Preston Sturges était le scénariste. Et effectivement, Marc Cerisuello, Preston Sturges, c'est d'abord, avant tout, un scénariste le mieux payé d'Hollywood, avant qu'il ne passe à la réalisation. 4 000 $ par semaine, même les stars n'étaient pas payés ce prix-là, Marc Cerisuello.
Oui, bien sûr. Je vais répondre à votre question, Antoine Guyot, mais d'abord, je voulais vous remercier parce que vous me faites un immense plaisir
mais
aujourd'hui, non seulement
avec
de parler de Preston Sturges, mais avec Whit Stillman. Donc là, vraiment, je suis aux anges. Oui, c'est un scénariste d'abord, c'est un scénariste un peu freelance d'abord, et puis qui a trouvé à la Paramount le lieu où il pouvait vraiment travailler. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est remarquablement, qui réussit dans le business du scénario avec vraiment beaucoup de talent. Il donne des exemples dans la comédie, mais aussi effectivement dans d'autres types de travaux. Par exemple, pour nous Français, quand il travaille sur Marcel Pagnol et qu'il écrit pour James Whale, qui était un immense cinéaste, c'est pas simplement l'auteur de Frankenstein.
Ce qui est déjà pas mal.
Ou ce qui est déjà beaucoup, mais James Whale, bon, c'est vraiment quelqu'un qui mérite lui aussi d'être d'une certaine manière redécouvert. Et il a adapté Fanny, mais en allant vraiment vers Marius et vers César aussi, ça s'appelle Port of Seven Seas, ça c'est vraiment voilà, un des travaux de Preston Sturges qui aimait beaucoup la culture française, qui était parisien lui aussi, qui a vraiment vécu en France assez longtemps et qui a terminé sa vie, sa carrière en France avant de revenir pour mourir aux États-Unis.
Oui, de façon assez tragique. Alors on ne va pas faire toute la biographie de Preston Sturges, on renverra aux pages que vous avez écrite et quand elle est reprise dans le livre du coffret DVD, mais il faut quand même préciser que dans la vie étonnante de Preston Sturges, c'est un inventeur de génie, l'inventeur du kiss-proof lipstick, le rouge à lèvres qui résiste à l'épreuve des baisers. Il va inventer un avion à décollage vertical. C'est quelqu'un qui est d'une inventivité permanente.
Oui, ça c'est intéressant. C'est un Américain à cet égard, c'est-à-dire qu'il a toujours été pris entre le côté très culturel qui était celui, on va dire, de sa mère, qui était vraiment quelqu'un qui était attiré par l'Europe, qui a été la bonne
très
amie d'Isadora
Duncan. Ouais.
Donc il y avait vraiment tout un monde, Gordon Craig. Enfin, c'était vraiment très très, très amusant. Il existe des photos de Preston Sturges avec la famille Wagner, avec les enfants Wagner à Bayreuth quand il était tout petit. C'était très rare chez les cinéastes hollywoodiens. Et donc, oui, il y a tout ça qui va avec Whit. Vous voulez prendre la parole, je pense.
Une autre chose intéressante, c'est qu'il avait eu une époque vraiment de grand succès en tant qu'auteur dramatique jusqu'en 1932. Il avait eu deux grands succès, Guinea Pig et un grand succès qui s'appelait Strictly Dishonorable. Il avait essayé au départ de continuer à faire d'écrire et puis il avait échoué, mais il avait eu vraiment trois périodes de grand succès dans sa vie, d'abord en tant qu'auteur dramatique, ensuite en tant que scénariste et puis en tant que réalisateur. Et en 1944, tout fini.
Oui, c'est ça, c'est le météore dont je parlais tout à l'heure en introduction. Mais alors, avant qu'on aille déjà à la fin, on va quand même parler des débuts. Whit Stillman y a fait allusion. C'est quelqu'un qui ouvre la voie à beaucoup de choses, et notamment à toute une génération de cinéastes, qui sont les Billy Wilder, les John Huston, les Joseph Mankiewicz et autres. C'est le premier scénariste qui se bat et qui obtient de passer à la réalisation.
Voilà. Ça, c'est un, en dehors de la comédie, c'est le grand rôle de Preston Sturges dans l'histoire du cinéma. C'est réellement le premier qui a, parce qu'il était tellement, il avait tellement de succès que les gens de la Paramount, et en particulier un producteur très intéressant, William Le Baron, qui était vraiment un ami et qui lui a réellement permis de tourner son premier film, Le Gouverneur malgré lui. Gouverneur malgré lui, le contrat était, on dit, c'est un film qui est réalisé pour $1 de salaire de metteur en scène. En fait, le fils de Preston Sturges m'avait dit, donc ça a été revu à $10.
Ouais, multiplié par 10.
Parce qu'il était déjà tellement bien payé. Et on pensait vraiment qu'il allait se planter. C'est souvent, ça revient souvent, ce genre d'histoire. Et donc, finalement, non, ça a très bien marché. Et il est devenu cinéaste à ce moment-là. Il fallait que ce soit Paramount. Il fallait que ce soit, à ce moment-là, il fallait que ce soit Sturges. Et à partir de là, Wilder, qui était effectivement dans le même studio, a pu réaliser The Major and the Minor, qui était sa première comédie, mais dans d'autres studios, Houston, puis Delmer Daves, enfin, des scénaristes, comme le disait Whit Stillman tout à l'heure, ont enfin, effectivement, pu y arriver. Mais il fallait que ce soit 1940. Dans les années 30, pour le dire très, très simplement, les scénaristes étaient plutôt des employés de studio. À la Warner, ils pointaient comme les ouvriers, hein, et ils devaient rendre, comme le rappelle Billy Wilder dans ses mémoires, 11 pages par semaine, qu'il vente ou qu'il pleuve. Hein.
Voilà, c'est, comme ça, que Preston Sturges, bon alignement d'étoiles, remporte le gros lot.
Wow! Oh, honey, look! Hey, everybody, come here! Come on down here, honey, get up. Wow! Oh, boys and girls, there comes a time in everybody's life when you just got to get up on top of a desk and let her rip! Wow! In other words, boys and girls, I just won the $25,000 first prize in the Baxford House contest. Hey, give me a phone. Boy, this is going to be good. Hello? Give me Astoria 59970. This is really going to be good. Hello? Somebody give me a chance. Hello, hello, is this Mrs. Schwartz?
Yes.
This is Jimmy. Yeah, hello, Mrs. Schwartz. Yes, I hate to bother you, but could I talk to my mom a minute? Yes, it's very important. Thank you, Mrs. Schwartz. I'll let you use my phone all you like when I get one. Hello, Mom? Mom, this is Jimmy. Now, Mom, I'm going to tell you something, but don't let it frighten you.
You're not hurt?
Of course I'm not hurt. Mom, would I call you up from under a streetcar? Now, Mom, listen. Are you a rich woman or a poor woman? No, I'm not crazy with the heat. I'm just asking you a simple question. Are you a rich woman or a poor woman? You're all wet. Oh, I said you're all wet, Mom. Now, look, you're going to go buy yourself anything you want. New furniture, automobiles, new dresses.
Electric washer.
You know the one you like, the green one? It's yours, Mom.
Davenport.
Oh, the Davenport. And the one that turns into a double bed at nighttime? It's yours, Mom. It's all yours. And anything else you want, all you got to do is tell me and it's yours, Mom.
It's going to cost you just one Davenport.
I'll tell the world I got a raise.
And how he got a raise.
Let's put him out of his misery.
Hey, she's the boss.
What is going on around here? What is this, a football game?
No.
Alors, c'est un extrait de Christmas in July, Le Gros Lot, le deuxième film de Preston Sturges en 1940. On a entendu Dick Powell dans le rôle de Jimmy McDonald faisant partager sa joie d'avoir remporté un concours de slogan pour une marque de café. En fait, c'est une conspiration, c'est un stratagème, un canular monté par ses collègues. Et lui, s'enthousiasme et est prêt à de couvrir sa mère de cadeaux et tout le quartier avec. Deuxième film donc de Preston Sturges après Gouverneur malgré lui, qui n'est malheureusement pas dans le coffret, on garde l'espoir pour une prochaine édition, et énorme succès pour ces deux films. Philippe Garnier raconte dans le livre qui accompagne le coffret, livre richement illustré de très belles photographies, que Gouverneur malgré lui fait à l'époque plus d'entrées que Mr. Smith au Sénat, autre satire politique sortie 6 mois auparavant chez Columbia. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, on en reparlera plus précisément à propos des voyages de Sullivan, mais de penser un peu à Capra, Charlotte Garçon, quand on voit ses films.
Et oui, parce qu'on l'entend dans l'extrait, « Maman, t'es riche ou t'es pauvre Dis-moi. » Et effectivement, chez Frank Capra, il y a ces héros qui sont transportés, malgré eux, dans un monde social complètement différent de celui dont ils sont extraits. Sauf que chez Frank Capra, il y a une forme d'étrangeté de ces héros qui deviennent des sortes de candides dans le monde des riches, tandis que là, on l'entend, lui, il marche comme sur des roulettes, on lui dit « Vous avez gagné le gros lot » et ça y est, tout à coup, il y est et il arrose tout le monde de cadeaux avant même d'avoir la confirmation. Donc on voit, on entend que Sturges est plus du côté de la blague cruelle, il me semble qu'il y a une ironie dramatique beaucoup plus forte chez Sturges que chez Capra, et par là une forme de sécheresse, disons, ou de... quasiment de cynisme dont on pressent que Capra n'est pas du tout dans cette idée-là.
Enfin, c'est sécheresse et encore, parce qu'il y a aussi le côté là déjà sturgessien du jusqu'au boutisme dans la situation, c'est-à-dire que quelqu'un va croire gagner le gros lot et ça va jusqu'au bout du bout du bout avec cette scène extraordinaire de désordre général dans la rue. C'est ça un des traits de Preston Sturges, Whit Stillman, pour vous, c'est voilà, pousser une situation dans ses ultimes retranchements.
Gosh, I couldn't disagree more.
Moi, je suis complètement d'accord.
I think that with Preston Sturges, there's kind of a crazy joy.
Il y a une joie folle, et tout peut être interprété positivement, et tout devient positif chez lui. Et une des raisons pour lesquelles on aime ses films plus que ceux de Capra, c'est que Capra mélangeait aussi la critique sociale, la critique des opportunistes, et ça ne se passait pas très bien. L'époque. Et on pouvait voir ces films encore et encore à l'époque. Alors que la joie des films de Sturges, on aime y retourner.
Where were you at 20?
Well, I was in college.
When I was 13, I supported 3 sisters and 2 brothers and a widowed mother.
Where were you at 13?
I was in boarding school. I'm sorry.
Well, you don't have to be ashamed of it, Sully. That's the reason your pictures have been so light, so cheerful, so inspiring.
They don't stick with messages.
That's why I paid you 500 a week when you were 24.
750 when you were 25.
1,000 when you were 26.
When I was 26, I was getting 18.
2,000 when you were 27.
I was getting 25 then.
I just opened my shooting gallery. 3,000 after thanks for yesterday.
4,000 after answering your
I plan. Suppose you're trying to tell me I don't know what trouble is.
Yes.
In a nice way, Sully.
You're absolutely right. I haven't any idea what it is.
People always like what they don't know anything about.
Certainly had a lot of nerve wanting to make a picture about human suffering.
You're a gentleman to admit it, Sully. But then you are anyway.
How about making Ants in Your Pants of 1941? You can have Bob Hope, Mary Martin.
Maybe Bing Crosby.
The Avid Dancers.
Maybe Jack Benny and Rochester.
A big name band.
What?
Oh, no. I want to make Oh, Brother, Where Art Thou? But I'll tell you what I'm going to do first. Going down to the wardrobe and get some old clothes, some old shoes.
Huh?
And I'm going to start out with 10 cents in my pocket.
What?
I don't know where I'm going, but I'm not coming back till I know what trouble is.
What?
Don't worry, you can take me off salary.
Who's talking about taking your salary?
So long, and thanks for the
Now,
idea.
Wait a minute. Don't be so impulsive. How soon you'll be back?
I don't know. Maybe a week, maybe a month, maybe a year. Don't worry about me, and thanks, Dracula. You gave me a great idea.
I gave you...
C'est sans doute un des, voire le film le plus connu de Preston Sturges, Les Voyages de Sullivan. On a entendu la compétition des producteurs de ce cinéaste pour expliquer qui a eu l'enfance la plus malheureuse et qui a vraiment le plus travaillé quand ils étaient petits. Et ce malheureux Sullivan, qui lui a eu une excellente éducation dans les plus fameux collèges, se rend compte que lui qui voudrait faire un film social à la Capra, par exemple, il ne connaît rien du tout à la pauvreté et donc à ce projet dément de se déguiser en hobo, en vagabond, en clochard, pour découvrir vraiment ce qu'est la misère. Alors, Métafilm, c'est une de vos spécialités, Marc Cerisello, un film sur le cinéma. On y entend beaucoup parler de Lubitsch, le personnage que joue Veronica Lake, The Girl, rêve de rencontrer Lubitsch pour pouvoir faire carrière à Hollywood. Et puis, on parle aussi de Capra, mais qui est ce Capra entend-on parfois? Alors, je vous pose la même question, Marc Cerisello, Sturges, c'est de l'anti-Capra ?
Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Whit Stillman, et en léger désaccord avec mon ami Charlotte Garçon. Je pense qu'effectivement, what's the matter with Capra ? Qu'est-ce qu'il y a à Capra ? Donc, il ne veut pas faire quelque chose comme Capra. Il est plus résolument du côté de Lubitsch. Lubitsch, c'est Paramount aussi. C'est vraiment monsieur Paramount. Et donc, c'est... là, je pense qu'il y a un véritable désaccord sur toi. Enfin, désaccord, je veux dire. Sur ce film, en tout cas, c'est très clair. C'est-à-dire que c'est un métafilm sur l'art de faire des comédies à Hollywood et il penche plutôt d'un côté que de l'autre. En même temps, il est évident que c'est normal que Capra vienne dans le débat parce qu'il y a l'idée de faire un film social. On a Je précise juste un point, c'est que vous avez laissé un large extrait, mais c'est vrai qu'il y a une chute dans ce dialogue, c'est que les producteurs qui prétendent avoir été misérables, qui touchaient 18 dollars à 26 ans, en fait, c'était pas vrai du tout. Il y a la chute, c'est encore
mais
plus c'est, drôle.
Mais
il y a
c'est
un tour d'écrou à
c'est
la fin.
C'est l'art du contre-pied chez Sturges, c'est-à-dire que chaque fois qu'une situation commence à s'installer, il va immédiatement casser et aller à contre-courant de ce qu'il vient de vous raconter. Richard Le Garçon.
Oui, de même que... Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de désaccord, parce qu'il me semble que Les Voyages de Sullivan sont une critique du cinéma de Capra, effectivement. Et en même temps, il est contre, mais il est vraiment tout contre, parce que vous disiez qu'il y avait toujours une sorte de... en spirale, comme ça, d'alternance entre une situation et puis, en fait, une autre à l'intérieur, etc. Et il y a notamment dans Les Voyages de Sullivan un moment, finalement, assez glaçant, parce qu'on est dans une légèreté très lubitschienne, et tout à coup, on parle d'un réalisateur qui dit toujours qu'il va faire son comeback, et Véronique Lake dit... mon coloc aussi, il dit c'est la même chose. C'est un réalisateur, il dit toujours qu'il va revenir. Et puis il disait ça, puis l'autre jour il s'est tiré une balle et on a dû retapisser sa chambre. Et tout à coup on a cette image qui fait presque penser à Mulholland Drive de David Lynch, enfin dans son côté extrêmement pourrissant de cette cruauté du système hollywoodien. Donc en fait il y a exactement comme chez Capra, je suis désolée de le dire, ces moments de désespoir absolu et qu'on retrouve chez Capra dans des héros qui sont au bord du suicide aussi.
Alors, ce qu'on a entendu aussi dans cet extrait, c'est la vitesse incroyable des dialogues de Preston Sturges. On a loué ceux de Howard Hawks dans la Dame du Vendredi, mais là ça va à une vitesse incroyable. Il y a une accumulation et une écriture extraordinaire, Whit Stillman.
Cette scène dans l'histoire du cinéma est particulièrement moment excellent pour parler du business du cinéma. C'est aller plus drôle, en fait, cette scène pour ceux qui connaissent le business du cinéma et qui travaillent. Je ne veux pas dénigrer Capra, mais il y a un autre lien avec lui. C'est dans It Happened One Night. Et quelque part, il continue dans New York, cette veine-là, New York-Miami, dans une veine sociale. Et je dirais que dans Les Voyages de Sullivan, il cherche les défauts de ces films. Donc il y trouve des choses fantastiques. Mais quelque part, ça tourne mal. Il est allé trop, il a fait un pas de trop dans le domaine de Capra.
Et puis encore, il y a une analogie que vous utilisez d'ailleurs, Marc Cerisuelo, quand vous écrivez sur Sturges, c'est cette façon de louer cette cockeyed caravan, cette caravane des éclopés, des borgnes. Et on a, dès les premiers films de Preston Sturges, toute cette compagnie incroyable d'acteurs aux gueules cassées, fripées, des exaltés, des excentriques, ce que vous appelez la Sturges Stock Company, tous ces acteurs qui souvent venaient du cinéma muet. Vieux acteurs du muet et qui vont faire le matériau réellement de Sturges.
Oui, ça c'est très important à l'époque quand Sturges... On a découvert ces films à l'après-guerre en France parce que les films ne pouvaient pas être projetés sous l'occupation allemande. Et donc c'est à ce moment-là que André Bazin, Alexandre Astruc, Eric Rohmer, enfin il y a eu vraiment...
Ils le mettent à la hauteur d'un Orson Welles.
Voilà, et justement, ce sont deux troupes. Le Mercury Theatre pour Wells et la troupe de Sturges. Et donc, ce sont deux hommes de troupe, Wells et Sturges, et c'est, leur modernité ne repose pas simplement sur cette dimension de troupe théâtrale, mais il y a ça qui va avec. Et effectivement, ce qui est extraordinaire dans les films de Sturges, c'est qu'on a 10 personnes dans un plan. On rit déjà beaucoup, et puis il y a celui qui passe, le dernier, qui a l'air un peu ahuri, en fait on le connaît parce qu'on sait qu'il fait partie de la troupe, et qui va dire la réplique qui tue. Et ça c'est...
Mais ça ne suffisait pas, il y en aura encore une après,
voilà,
etc.
Voilà, les frères Cohen ont repris ça dans le film qui a été inspiré c'est quand même
le titre du film que Sullivan veut réaliser. Voilà.
C'est le film que Sullivan veut réaliser. Et les frères Cohen appellent leur film Oh Brother, Brother en français, si j'ose dire, c'est ce film-là. Et là, dans ce film-là, il y a beaucoup d'hommages à Sturgis en dehors du titre.
Dans la séquence de la projection du cinéma.
Voilà, où là c'est réellement nominal, mais à un moment donné, on attrape un fameux bandit, on veut le pendre, et on entend toute une série de répliques, et à la fin, il y a la dernière, parce que comme il avait tiré sur des vaches, puis il y avait des reprises de l'Odyssée, enfin, bon, c'est assez amusant, et on entend une petite voix qui après, on l'a traité de tout, et qui dit « Cow killer, tueur de vaches », et ça s'arrête comme ça. Ça, c'est exactement des types d'écriture qui viennent de Sturgis et qui achèvent vraiment le spectateur à la fin de chaque séquence.
Et ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours, quand même, « a little sex ».
Why don't you look where you're going?
Why don't I look?
Look what you did to my shoe. You knocked the heel off.
Oh, I did? Well, I'm certainly sorry.
If you didn't, you can just take me right down to my cabin for another pair of slippers.
Oh, well, certainly. I guess it's the least I can do. By the way, my name's Pike.
Oh, everybody knows that. Nobody's talking about anything else. This is my father, Colonel Harrington. My name is Jean. It's really Eugenia. Come on. Funny, I'm eating like this, isn't it?
Yes, isn't it? Quite a cabin.
Pretty cozy, isn't it?
Holy Moses.
What's the matter?
That perfume.
What's the matter with it?
Well, it's just that I've been up the Amazon for a year and they don't use perfume.
Oh. The shoes are over here. Because you were so polite, you can pick them out and put them on if you like. Push that side.
Holy Moses.
See anything you like? The evening slippers are over there. There's the ones you want?
Doesn't seem possible for anybody to wear anything that size.
Oh, that's pretty. You'll have to kneel down.
Allez, il faut vous agenouiller, jeune homme, dit Barbara Stanwyck, Jean Harrington, Charles Pike, Henry Fonda. Henry Fonda, acteur burlesque extraordinaire, se révèle-t-il dans ce film. Et bel exemple de cornuo, comme il y en a tant chez Sturgis, l'idiot gentil, attachant, jamais méprisé en fait par Preston Sturgis, capable de tomber amoureux deux fois de la même femme sans s'en rendre compte. Vous parlez, Marc Cerizuelo, de ce trio, cette trinité sturgesienne, qui est le roué, le corneau et l'exalté. Sauf qu'ici, ce qui m'a frappé vraiment dans ce film, c'est qu'on est sans arrêt dans des sentiments différents, parfois au sein de la même scène. Vous allez avoir à la fois du burlesque, de la comédie romantique, de la comédie sophistiquée, et parfois dans le même plan, je pense à cette grande déclaration d'amour d'Henry Fonda à Lady Eve. On est très ému, et en même temps, il se fait brouter les cheveux par un cheval.
Oui, la séquence que nous avons entendue est extraordinaire parce que comme il le dit, il était sur l'Amazon pendant une année et donc il sait plus exactement à quoi ressemble une femme et il est complètement, on a rarement vu un homme à l'écran en état de total, il est complètement démuni, il est à ses pieds, il voit trouble. Il est tellement ému, c'est extraordinaire comme scène. Ça c'est vraiment dans l'histoire de la comédie, on a un homme absolument démuni face à une femme et c'est ce qui va la toucher alors que elle est une rouée, hein, justement.
Oui,
et lui, je dirais pas corneau mais nigo plutôt, hein, ouais. C'est plus gentil.
Oui, mais c'est affectueux quand je dis corneau. ce personnage d'homme, c'est assez rare dans le cinéma, Woody Stillman.
I don't know.
Je sais pas.
Une
des choses que j'aime dans les films de Sturgis, c'est que toujours il a ses personnages qui ont toujours quelque chose. On ne sait pas s'ils viennent de la bière, ils font des études, ils ont tout un background. Il y en a un qui étudie les araignées. Et puis il y a ces hommes extrêmement capricieux. précieux, extrêmement généreux, très riche.
It comes really from his familiarity.
Et je crois que ça vient vraiment de sa familiarité avec ce propre milieu-là. Enfant,
Isadora Duncan's entourage,
il était dans l'entourage de Isabella Duncan, Isadora Duncan, et son beau-père, il venait de Chicago, était un homme plutôt riche. Et je crois que c'est son beau-père qui était Hutton et qui était un des grands financiers de l'époque. Et donc il était très familier avec ce milieu et très généreux, très très aimable, très gentil.
Alors Charlotte Garçon, ce film Lady Eve est aussi entré dans l'histoire parce que c'est sur ce film que s'ouvre la grande étude de Stanley Cavell sur la comédie du remariage, donc film exemplaire de la comédie du remariage et en même temps une façon de désosser la screwball comédie et de la remonter et d'aller jusqu'au bout. On va voir ça d'ailleurs dans le film suivant.
Oui, vous avez raison de dire qu'il y a un démontage, il y a une sorte de... C'est pour ça qu'il a une distance très analytique, de même que... Mais dans ce film, ce qu'on comprend, c'est que le savoir est évidemment opposé à l'expérience et qu'il faut vivre et que l'amour ne peut que se vivre et non pas s'étudier comme si c'était un serpent froid, puisqu'il est spécialiste des serpents.
Il est herpétologue.
Voilà, herpétologue. Et effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est la récurrence, par exemple, d'un mot en fait, tous les films de Sturges que j'ai vus, peut-être pas dans tous de sa filmographie, c'est le mot cockeyed. Vous disiez cockeyed caravan, mais en fait, dans ce mot-ci, Henry Fonda dit je suis cinglé de votre parfum, j'en suis fou, et il dit cockeyed. Et puis, le mot revient véritablement, et puis elle-même dit ensuite, quand elle va se transformer, elle va dire I'll be a cockeyed duchess, je serai une duchesse. Alors, je sais pas comment traduire, peut-être Harold Manning. Voilà, c'est ce mot de cockeyed. Qui pour moi caractérise au fond très très bien ce que fait Sturges à partir des genres connus, on pourrait dire, de la comédie romantique ou même de la comédie du remariage, qui n'est pas vraiment un genre, qui est un genre que le philosophe Cavell a forgé, mais déjà on est dans un dérapage par rapport au code.
Ça va de guingois, cockeyed, voilà. On peut aussi le dire comme ça, cockeyed caravan, une caravane qui va de guingois, c'est une vieille expression française, mais c'est ce qui la rend le mieux, je pense. Je pense que c'est d'ailleurs vieux aux États-Unis. Ça se dit plus vraiment.
Non, c'est un peu vieilli, oui, comme langage. C'est ça, ouais. Mais c'est le charme aussi de l'expression.
Alors voilà, ce principe du démontage du jusqu'au boutisme dans la comédie du remariage, Preston Sturges va pousser ça très très loin.
What's nippin', kitten?
Jerry's going back to her husband.
Oh, you poor dumb thing! I know just how it is. I'll bet he's a knockout.
I'm awfully sorry about Snoodle.
Well, anyway, darling, you'll still have your airport, and you and the captain and I will be as busy as bird dogs, won't we, Captain?
I'm afraid that isn't possible either.
Why not?
I still have. I always will have the deepest affection for you. Certainly nothing has happened to spoil my friendship with your brother. Being with him will remind me of you.
Well, you see...
What now?
He isn't exactly my brother.
No, he isn't exactly your brother.
No.
Hello!
Oh, shut up. He's my husband. He's
your husband? That's right.
Well, no wonder. I thought I was losing my grip.
You mean the vermin who what? That's right, you said he didn't.
Then who is McGlue?
There is no McGlue.
Well, thank heavens for something, that name.
Then it's the Jeffers Airport, that's it, isn't it?
Are you still talking about that airport? You really take it on the chin, don't you?
Why not? If an idea has merit, it has merit. Sentiment and business don't belong in the same bed. After all, Grandfather Lowell Doyle, you know it. Made his eyes water, but that didn't stop him from making millions out of it.
You mean you still want to go through with the airport?
Why not? On a purely business basis, of course. Right now, I don't like you, although I may get over it later. Right now, I need something to occupy my mind. The airport is something, if not exactly what I hope for. I'll be very lonely without you, Jerry.
Oh, Captain, and thou?
I don't suppose you have a sister?
Only a twin sister.
A twin sister?
Well, didn't you know about that? That's how we were married in the beginning, both being twins.
Of course, that's another plot entirely.
Both twins? Twins?
Are you a twin?
Yes. Well, what's
she doing?
Well, nothing,
you see.
Alors là, on a fait un peu comme Preston Sturges, c'est-à-dire qu'on vient de vous passer la fin de The Palm Beach Story, Madame et ses flirts, dans cet épouvantable titre français, donc on va l'appeler The Palm Beach Story. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on ne va rien dire, comme ça, quand ils verront le film, ils auront la surprise, mais précisément, dans ce film, The Palm Beach Story, ça commence par une fin de film, de façon absolument frénétique, un générique de début auquel on ne comprend absolument rien, et qui ne s'éclaire qu'à la fin. Et il y a cette façon, chez Preston Sturges, c'est souvent le cas de commencer ses films de façon frénétique, complètement complètement allumé, de perdre complètement le spectateur et en même temps de le mettre dans un état de réception possible, comme ça, du délire de Sturges with Stillman.
This is a very good beginning to Miracle at Morgan's Creek.
Oui, et dans Miracle at Morgan's Creek, il y a vraiment
Miracle
un début
Village,
tout à fait
en français.
Miracle au Village, il y a un début également tout à fait fantastique.
Two of his triumphs of joy, these two films, Palm Beach Story and Miracle at Morgan's Creek.
Avec Palm Beach Story, c'est vraiment des films extrêmement qui donnent beaucoup de plaisir.
Alors même l'auditeur qui ne comprend pas l'anglais a entendu quand même des patronymes, et il y a une invention onomastique toujours extraordinaire chez Preston Sturges. On a entendu Tom, on a entendu Jerry, et ce film, écrivez-vous, Marc Cerisuello, et c'est tout à fait probant quand on le voit, c'est le début de la cartoonisation de la comédie américaine qui donnera plus tard les Frank Tashlin et surtout Black Edwards et autres. Sturges introduit le dessin animé dans le cinéma.
Là, on est dans l'histoire des formes, hein, et il est évident que quand Bazin écrit en 1946-47, Preston Sturges poursuit l'aventure de la comédie américaine par sa destruction. C'est tout à fait intéressant comme idée critique. Et notamment, il y a, par rapport aux formes du comique, plutôt que de continuer dans un genre qu'il connaît parfaitement, qu'il a écrit, qu'il a illustré, il revient vers le burlesque. Donc il y a des chutes, des pratfalls, notamment dans The Lady Eve. Ce pauvre Charles tombe plusieurs fois.
Ah oui,
c'est
Henri Fonda s'en prend plein la tête.
Et un grand C, puisque c'est quand même aussi Adam et Ève. Et d'un autre côté, donc effectivement vers l'avant, hein, cette fois-ci, il va vers une façon beaucoup plus formelle de concevoir ses personnages. Ça ne veut pas dire que ces personnages sont des personnages de dessin animé, mais il insuffle de l'énergie du dessin animé dans des comédies avec des personnages bien réels. Et effectivement, dans The Palm Beach Story, il s'appelle Tom, elle s'appelle Geraldine, on l'appelle Jerry, donc une sorte de Tom et Jerry. Et le début du film, quand elle s'en va, quand elle décide de partir un matin et qu'elle ne sait pas comment le lui dire, elle a une épingle et elle punaise d'une certaine manière son mot sur une couette et elle le réveille.
Et donc sur les fesses
là,
de son mari.
Et là, on a tout en Mickey Mousing une poursuite à l'intérieur de l'appartement et on dirait vraiment un Tom et Jerry. C'est très étonnant, c'est très frappant.
Et c'est en cela qu'on peut le rapprocher de Wells aussi, c'est qu'il y a une sorte de maniérisme chez Preston Sturges qui affiche l'artificialité
du
cinéma Charlotte Garçon. On est là encore dans le dévoilement de la structure, le plaisir du spectateur vient aussi de ce qu'il réalise qu'il est en train de regarder un film.
Oui, et ça c'est annoncé dès les génériques, puisque d'ailleurs le générique de The Lady Eve est un cartoon, c'est le serpent au paradis, mais vraiment avec une tête de cartoon qui, avec la pomme dessinée. Donc, et puis tous les noms, vous aviez dit, alors déjà dans The Lady Eve c'était Hopsy, hein, qui fait penser un petit peu à Ups, comme ça, puisqu'il travaille dans la bière, et puis là on a entendu Snoodle, McGlue, et puis il y a ce personnage incroyable qui vient d'un pays de l'Est, Toto, qui est traité par une femme comme vraiment un petit chien, son petit chien, son amant comme ça, jetable, et qui m'a fait penser au petit chien du Magicien d'Oz de Dorothy qui cherche toujours son chien Toto. Donc il y a effectivement toute cette mise en abîme du cinéma, effectivement très joyeuse, très bondissante, et qui ne craint jamais de dévoiler l'artifice.
Ladies and gentlemen, I give you Mr. True Smith. Ladies and gentlemen, I wish I were dead. Oh. You're making a big mistake. Oh. I love my mother very much.
He has a natural flair for politics.
But she shouldn't have told you I was coming home and made all that fuss at the station. Oh. I really don't deserve it.
No betcha.
There are many, many men. Any one of these young men, for instance, far, far more deserving than myself. The medals that you saw pinned on me, you could practically say were pinned on by mistake. I want you to believe me. I've known all of you all my life. I mowed your lawns. I delivered milk for your babies. I even know the dogs and cats.
That milk and baby part is remarkable.
After that, he could be president.
Nothing would be dearer to my heart than to be worthy of the honor you've offered me. I wish I could accept it. Yeah! I'm no hero. Yeah! I haven't had Dr. Bissell's long experience with animals. Oh. There is the man for you.
No.
I thank you. No.
Grand discours d'Eddie Bracken dans Héros d'occasion. Alors le jeune homme a fait croire à sa mère qu'il était parti à la guerre, mais voilà, il a un rhume des foins chronique, donc il a été réformé. Il n'a pas osé dire la vérité à sa mère et emballé par une bande de Marines complètement exaltés, là encore, hein, toujours la figure de l'exalté William de Marest en tête de file va le faire revenir au village et là il est fêté comme un héros. Et il a beau dire la vérité, plus il dit la vérité, plus les gens admirent sa fausse modestie pour eux. Ou son sens politique. C'est un film qui forme un diptyque, donc avec Miracle au village où joue aussi Eddie Bracken, dont nous avions parlé avec vous, Whit Stillman. Deux films d'une immoralité incroyable, d'une satire du patriotisme américain en plein temps de guerre. Il faut rappeler que ces films ont été réalisés en 1943-44. On est en plein dans la guerre, Whit Stillman.
On n'est
plus dans le monde de la satire, en fait. On est dans le monde de l'humour. Et il y a ce truc merveilleux avec lui, c'est que tout finit finalement bien, même si c'est comique et si c'est fou.
Quelqu'un comme James Agee écrira le grand critique américain. Les employés du Code Hays, là, du Bruin Office, ont dû être violés dans leur sommeil pour laisser passer quelque chose comme ça. On le voit maintenant, aujourd'hui, on est sidéré que de tels films puissent passer, Whit Stillman.
I don't know. I see something different in it.
Moi,
I see a sort
chose.
Of happiness
je vois une joie,
of taking these people who are rete,
de prendre ces personnages
who are failures,
sont des
and
échecs,
putting them in a proper context.
Dans
so
un,
this is
dans
a fellow who
contexte.
Really is miserable. He didn't fight in the war.
Et lui-même n'avait pas combattu pendant la guerre. Et là, du coup, il est réévalué par son équipe et par son village en tout entier.
Mais de fait, Marc Cerisuello, ces deux films, hein, Miracle au village et Héros d'occasion, seront les films de tous ces adolescents qui craignaient de partir
oui,
à la
absolument.
Guerre ou de ces gens-là qui étaient à l'arrière et qui voilà,
ça, j'ai
ne
eu
sentaient pas très bien.
J'ai eu beaucoup de témoignages de la génération de Stanley Cavell, Richard Leacock. Enfin, là, pour eux, ils connaissaient les répliques par cœur. C'était des gens qui étaient étudiants à cette époque-là et qui pouvaient très bien quand même partir à la guerre. Ils étaient à l'arrière, ils ne savaient pas exactement. Ils étaient trop jeunes, ils avaient 18, 19 ans. Et ces films-là avaient un effet vraiment absolument libératoire. Et Miracle au village a été le plus grand succès de l'année 1944 avec Le Chant du Missouri, hein, avec Min Min Sandwich. C'était vraiment des films qui ont été absolument libératoires. Mais Whit Stillman a raison, c'est aussi parce qu'il y a une telle joie. C'est l'idée de ces sextuplés qui arrivent, et ça c'est le miracle.
C'est, le monsieur,
ce
c'est quand même le monsieur plus du cinéma, Star Joss. Il ne va pas nous faire des triplés, il va nous mettre des sextuplés.
Voilà,
quoi.
Exactement. Ouais. Alors que quand le film sera un petit peu refait par Stachlin, ce sera trois bébés sur les bras avec Jerry Lewis.
Avec Jerry Lewis, qui s'est beaucoup inspiré d'Eddie Bracken. Hein, c'était un de ses modèles. Et on a dans ce film, on parle de l'histoire des formes, encore un principe de saturation visuelle avec ces foules qui attendent le personnage, comme on avait le club des millionnaires, des chasseurs dans...
Hale and Quail
voilà,
club,
dans Palm Beach Story, qui envahissait la cabine du train, les Marx Brothers, donc à bien se tenir. On a un principe de saturation visuelle et sonore en permanence dans ces films, Charlotte Garçon.
Oui, mais parce que ça va, me semble-t-il, avec quand même ce qui est montré, à savoir que quand un peuple veut de l'héroïsme, il en trouve n'importe où, même dans le plus raté des fils à maman. Hein, on l'entend, et quand il fait un discours, il parle forcément de sa mère et de son amour pour sa mère. Donc, il y a cette idée que l'idéologie trouve toujours ce qu'elle veut trouver, et cet aveuglement-là est très drôle.
Mais c'est une réflexion presque eastwoodienne sur le héros. On a besoin de héros et William de Marest se dira « Non, mais c'est pas des mensonges, c'est des promesses électorales. » Les gens adorent ça.
I trust you enjoyed the concert.
I thought you were wonderful, darling.
Thank you, I got quite inspired tonight. I know it sounds absurd, but did you have a peculiar feeling that you were watching me conduct for the last time?
for the last time?
Women get premonitions about things sometimes, such as that their husbands are going to die, or even that they are going to pass on, I believe it's called, in refined circles or things of that nature.
Why should I have any thoughts like that?
Well, it could have been the music, which does strange things sometimes. Very strange things. You know, after all this somber music of mine, I think you ought to hear something a little lighter, something gayer, something a little nearer your age as a sort of antidote. How would you like to go dancing?
Oh, wouldn't that be wonderful?
Yes, wouldn't it? I've got to talk to Hugo about the South American tour for a while. I might be able to join you later. Certainly, I'll try very hard.
Join who later?
Oh, you know, and whoever's fortunate enough to take you dancing. At my expense, of course, I insist upon paying.
I don't think I should like to go dancing without you. I can't think of anyone I'd care to go out with.
Think hard.
I am thinking hard, but I can't think of anybody.
Alors, ce bel accent anglais, c'est celui de Rex Harrison, chef d'orchestre, sœur Alfred Carter, qui va proposer innocemment à sa femme Daphné, jouée par Linda Darnell, d'aller danser avec son secrétaire. Alors là, on est dans un, pour ceux qui ont vu le film, dans un fantasme. C'est le fantasme d'un chef d'orchestre extrêmement jaloux et qui, selon les morceaux qu'il va diriger pendant son concert, fantasme différentes résolutions à son, à sa déception amoureuse et à sa jalousie. Et la beauté de ce film, c'est non seulement de mélanger les genres, c'est-à-dire qu'on va avoir le thriller, une histoire de crime parfait, le mélodrame du pardon, le drame du suicide, mais que tout ça va se résoudre dans le burlesque, puisque c'est un des grands thèmes encore de Preston Sturges, c'est le fantasme et sa résolution impossible parce que le monde lui résiste, Whit Stillman.
Well, I think this film is really very sad.
Ce film est un film profondément triste, triste en lui-même et aussi triste dans la carrière de Sturges. C'était vraiment la fin.
Really recommend the film.
I think it's better to difficile de recommander ce film.
Films as a screenwriter and how they created him
on
as a filmmaker.
On peut voir ses films vraiment des films comme des films de scénariste qu'il a ensuite mis en scène. Et on voit beaucoup d'éléments qu'il réalisera et qu'il va concrétiser dans les Des vainqueurs pris au piège. Et on peut penser à Mitchell Leisen qui était vraiment détesté par Sturges et on peut sentir sa frustration quand il travaillait avec Leisen. Et c'est ça qui a vraiment poussé vraiment Sturges à devenir metteur en scène, voir comment il était traité par d'autres.
Marc Cerisolo.
Oui, avant de parler de ce film-là, effectivement, Remember the Night, ça a été en 1940, le film qu'il a, le dernier film en tant que scénariste pour Mitchell Leisen. Et un an après la sortie, il avait réalisé 3 films. C'est-à-dire qu'en un an, il y a eu 4 films de Sturges, le Mitchell Leisen, Remember the Night, et ses 3 premiers films. Ça a été le côté météorique, effectivement, de Sturges. Il est d'abord là, dès le départ, parce qu'il avait des scripts qui étaient prêts et qu'il a pu les tourner. Et effectivement, là, c'est un film Fox, et on n'est plus...
Produit par Daryl Zanuck.
Voilà, on n'est plus à la Paramount, et effectivement, quand il perd la Paramount, quand il s'en va, quand il s'associe avec... s'associe avec Howard Hughes, et finalement il est récupéré par Zanuck pour 2 films, dont celui-là. Et effectivement, celui-là est, je serais peut-être pas aussi sévère que Whit Stillman, ce n'est pas, mais c'est une comédie noire. C'est une comédie noire, c'est très intéressant. Et sur la question du fantasme, c'est très moderne. Et des passages comme des films comme The Seven Year Itch, Sept ans de réflexion de Billy Wilder, sont directement inspirés par cette idée du fantasme et de la piètre réalisation du fantasme. Ça, mais c'est un film qui va vers l'avant, mais qui effectivement, on peut être un peu triste parce qu'il n'y a pas le même timing, le même tempo que dans la période Paramount. C'est pas pareil. Il n'y a plus la Stock Company également.
Oui, mais ça reste quand même un beau film avec aussi cette déclaration d'intention de Preston Sturges. On peut se dire que c'est le chef d'orchestre comme ça qui dirige. Il va dire un cymbaliste non mais sortez vos grosses cymbales là, parce qu'il est bon parfois d'être vulgaire. Et ça, j'aime beaucoup ce passage. On a tellement reproché à certains cinéastes comme Billy Wilder d'être vulgaire que c'est pas mal de le dire non plus. Merci beaucoup Marc Cerisolo, merci Whit Stillman, merci Harold Manning d'avoir interprété votre anglais, bien que votre français soit tout à fait impeccable. Je rappelle que le coffret DVD Blu-ray Preston Sturges King of Comedy sortira le 13 décembre. Ruez-vous dès le 13 décembre. C'est Wildside qui l'édite. C'est accompagné d'un très beau livre qui reprend notamment des extraits de votre livre, Preston Sturges ou le génie de l'Amérique, Marc Cerisuello. Livre paru il y a déjà longtemps et qu'on désespère de voir réédité. Car, n'est-ce pas, il est actuellement épuisé. Et puis de beaux textes de Philippe Garnier aussi sur chacun des films. Et puis on espère voir édité bientôt en DVD d'autres films de Sturges qui ne figurent pas dans le coffret Wildside, comme Gouverneur malgré lui, Miracle au village. Et puis je serais très curieux de voir Mlle Mitraillette, le western en couleur de...
Une copie à la Cinémathèque française.
De Sturges. Eh ben, programmez-le immédiatement, chers amis de la Cinémathèque française. On serait curieux de voir The Great Moment aussi, biopic de l'inventeur de l'anesthésie à l'éther. Côté ressorti en salle, mercredi dernier, je signale un autre grand classique de la comédie américaine, Chérie, je me sens rajeunir, d'Howard Hawks avec Ginger Rogers, Cary Grant et Marilyn Monroe, et dans un tout autre genre, Les bourreaux meurent aussi, de Fritz Lang. Sur France Culture, dans Plan Large, c'est l'heure de se pencher sur un cinéaste contemporain de Preston Sturges, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui, avec trois films, allait lui aussi révolutionner le cinéma et inventer un genre, un tout autre genre.
Ma se ci avessi un padre così glielo farebbe vedere io. Buonanotte.
Brutto maschio, sono a questa la mia casa.
Sarebbe meglio che entriamo una volta. C'ha ragione, entra prima.
Ah, siete qui, brutte canaglie, eh? Sono tornati.
Ma scalzoni!
Adesso va a chiappa. Adesso mi sconcioio delle feste, brutte carogne, a farmi morire crema d'amore.
Bon, voilà, on engueule des enfants et on finit par courir derrière un camion qui emporte son homme en hurlant son nom, Francesco, Francesco, et on finit morte sur le sol, abattue par des soldats allemands. Avec Rome, ville ouverte, Anna Magnani, la Lupa, la Louve, devenait un monument national en Italie, et avec ce film et les deux qui ont suivi, Paisa et Almagnane Zero, Roberto Rossellini, entré dans l'histoire du cinéma. Cette trilogie de la guerre est rééditée en DVD Blu-ray et en version restaurée par Blackout, ou comment un cinéma s'est inventé sur les décombres de deux pays ravagés par la guerre, sur les décombres aussi d'un système, celui du cinéma fasciste, auquel, rappelons-le tout de même, Rossellini a contribué avec trois premiers films en 1941 et 1942. L'événement, écrira-t-il dans Fragments d'une autobiographie, était le fait que j'ai pu profiter de ce que toutes les structures habituelles étaient en panne pour commencer d'inventer une technique permettant de faire du cinéma sans utiliser le studio. Et c'est ainsi, à tort ou à raison, vous nous le direz, Charlotte, que Rome, ville ouverte, devint et reste pour beaucoup le manifeste du néo-réalisme.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas un, mais des néo-réalismes. Mais ce premier film de la trilogie de la guerre est vraiment mythique à bien des titres. D'abord parce que Rossellini le tourne 6 mois après la libération de Rome. Vous le disiez, le studio Cinecittà est encore détruit. Et donc, il le tourne en décor naturel et avec un financement lacunaire et surtout très peu d'accès à de la pellicule de cinéma. Du coup, il achète des morceaux de pellicule photographique et il va les mettre bout à bout. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, les plans ne peuvent pas être longs. On ne peut pas faire de plan séquence quand on a des petits morceaux. Et là, on est vraiment entre la nécessité tout à fait matérielle et l'intuition d'une rupture esthétique affirmée. Rossellini dira plus tard que dans l'art, tout est dans le rythme et qu'il a horreur au cinéma des beaux plans. Alors, dans Rome, ville ouverte, Pina, effectivement, c'est Magnani, est enceinte, elle est déjà mère d'un petit garçon, Marcello, qu'on entendait là, qui aide en fait la résistance italienne. Et puis, elle s'apprête à épouser Francesco, qui est aussi résistant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le curé... Il y a un personnage de curé qui normalement est plutôt contre les communistes et qui regarde le communisme d'un air très douteux et qui, ce moment historique-là, va aider énormément les partisans italiens. Donc il y a bien dans ce film Rome, ville ouverte un scénario qui est signé par Sergio Amidei, qui est un néo-réaliste important, et co-signé d'ailleurs aussi par Federico Fellini, qui travaille surtout au moment de gags, et il y en a dans Rome, ville ouverte. Parfois on se croit un peu chez Don Camillo, hein. il y a des gags autour du curé, donc il y a bien un scénario, on n'est pas encore vraiment dans un cinéma libéré de la dramaturgie, mais tout de même, employer Anna Magnani à l'époque, c'est employer une actrice de variété, et puis dans le rôle du curé, c'est Aldo Fabrizi qui était aussi surtout connu comme comique. Donc Rossellini n'hésite pas à créer quelque chose à partir d'acteurs complètement à contre-emploi, et effectivement Anna Magnani n'était pas encore le monument dont vous parliez. et dont se souviendra Pasolini dans Mamma Roma en 1962, qui est vraiment la mémoire de ce personnage de Pina. Effectivement, il me semble que dans ce premier film, ce qui frappe surtout, c'est l'attitude du prêtre qui va jeter une malédiction contre les nazis. Et les nazis eux-mêmes sont en partie déjà très conscients que leur folie destructrice va se tourner contre eux et va devenir autodestructrice.
Look, I'm Joe from Jersey. You?
Ah, you got me.
Me, Joe, you come out. Beautiful city.
Ah, mare.
Mare?
Me faccio mio fratello in mare, tu capisci?
Yeah, mare. Jersey, we have the same blue sea.
La barca è buona, il mare è calmo. Forse non vengono più via dalla guerra. Io le vai a cercare, tu stare qui o andare.
Where you going? You can't leave now. There's fighting out there. Capisci? Boom, boom. Walk. Don't look at me like that. It's not my idea.
Siete tutto uguale, voi tedeschi, fascisti. Tutti che avete un fucile in mano, tutti stessi siete.
Come on. We got a couple hours here together. I'm in no mood for an argument. Come on, Carmela, smile.
Alors, Païsa marque vraiment un bond dans la modernité cinématographique de Rossellini. C'est ce film de 1946 qui est injustement méconnu par rapport aux deux autres. Son récit va remonter l'Italie du Sud au Nord, exactement en même temps que les Américains libèrent l'Italie de l'occupation nazie. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit de la Sicile à la plaine du Pô ? C'est une série de rencontres, on l'entend, des rencontres entre des gens qui sont de langues différentes, de religions différentes, et notamment trois aumôniers américains qui vont être hébergés par des moines. Tout à coup, les moines s'aperçoivent que l'un des trois aumôniers est juif. C'est absolument... Ils sont épouvantés. Donc, en fait, au lieu d'être l'histoire un petit peu édifiante d'une libération et d'une découverte mutuelle, c'est en fait un film beaucoup plus âpre et complexe. Et même quand on a des origines italiennes en tant qu'Américain, comme Joe from Jersey, eh bien, finalement, c'est très difficile de communiquer, de se comprendre. Et formellement, le film frappe parce qu'on découvre les lieux à mesure que les Américains s'y aventurent. Hein, les grands gestes ou les grands faits se produisent de la même façon, avec le même retentissement que les petits faits normaux de la vie, disait Rossellini dans un entretien. Donc finalement, ce qu'il y a de réaliste dans ce cinéma de la trilogie de la guerre, c'est finalement la mort. C'est comment la mort arrive. Elle arrive toujours d'un endroit dont on n'était pas au courant, d'où vient un coup de feu. On n'a pas le temps de s'arrêter quand quelqu'un meurt. Et ça imprime une forme très très particulière, un rythme très particulier à ces films. Le troisième, c'est Allemagne, année zéro. C'est peut-être le plus fort de ces trois films, plus connu aussi, qui a été tourné à Berlin, complètement détruite dans l'automne 1947, et qui naît d'un scandale dans la vie privée de Rossellini. Son fils de 9 ans vient de mourir de maladie, et scandale politique et moral de l'Europe défaite, puisque Edmund, le personnage de Allemagne année zéro, a 12 ans et il ne peut pas aller à l'école parce qu'il doit tout faire pour grappiller, travailler ce qu'il peut pour aider sa famille. Et c'est vraiment un film d'horreur, Allemagne année zéro, il me semble. C'est-à-dire qu'on voit dans ce film ce qui reste du nazisme. C'est pas parce que l'Allemagne est dénazifiée officiellement qu'il n'y a pas un substrat nazi qui reste. Et ça, il le montre très très fort avec cette scène incroyable qui est restée dans les mémoires auditives des spectateurs quand le petit garçon veut vendre un disque d'un discours d'Hitler à des soldats alliés et qu'il le joue sur un gramophone et que tout à coup on entend dans la chancellerie du Reich détruite, le discours de Hitler comme si le nazisme était vraiment encore là.
Merci Charlotte Garçon, je rappelle que le coffret Trilogie de la guerre de Roberto Rossellini est édité chez Blackout. Et puis je signale aussi, ça ne manquera pas de vous intéresser Charlotte, comme tous nos auditeurs férus de comédie musicale en général et de Fred Astaire en particulier, un délicieux petit spectacle claquette jazz qui se joue jusqu'au 28 janvier au studio Héberto à Paris. Ce sont des improvisations de claquettes, mais aussi une petite conférence sur l'art et l'histoire de ce genre. Et c'est toujours un bonheur de voir sur scène l'immense Fabien Ruiz, celui qui a appris à danser à Bérénice Bégin Bejo et à Jean Dujardin en chorégraphiant The Artist, un claquettiste d'envergure internationale, rien que pour vous sur scène, et c'est pour les grands aussi bien que les petits. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Alex Dang. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, Plan large sur une actrice qui nous a quitté centenaire il y a un peu plus d'un mois, honorée par une rétrospective à la Cinémathèque de Toulouse et dans la ronde de Max Ophuls qui ressort mercredi prochain. Il s'agit bien sûr de Daniel Darieux. Nous serons en compagnie de sa biographe Clara Laurent. D'ici là, j'aurai retrouvé certains de nos auditeurs parisiens pour une séance France Culture avec Emmanuel Gras autour de son extraordinaire documentaire Makala. Ce sera mardi à 20h30 au Majestic Bastille. Vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.